Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Christophe Dickès, nos auditeurs vous connaissent bien sur Canal Académie puisque vous animez l'émission Un jour dans l'histoire, en effet, et on vous retrouve aujourd'hui. Mais ils peuvent trouver toutes vos émissions dans nos archives. Mais aujourd'hui, on va inaugurer une nouvelle rubrique dans cette émission Un jour dans l'histoire, éphéméride. Alors vous allez nous présenter une date particulière de notre histoire, de l'histoire de France, mais aussi de l'histoire européenne. Il s'agit du 15 août 778, qui fut une journée endeuillée, puisque ce fut la date du drame de Roncevaux. Une monographie vient d'être publiée aux éditions Perrin, un livre écrit par la médiéviste Renée Musso-Goulard. Et curieusement, Christophe Dickès, il s'agit d'un tout premier ouvrage sur le sujet.
Oui, Hélène. Étrangement, l'historiographie est quasiment inexistante sur la date du samedi 15 août 778. C'est d'autant plus étrange que depuis la Troisième République, cette date est considérée comme une date majeure de l'histoire, de notre histoire nationale, mais aussi de l'histoire européenne. Roncevaux est une référence inscrite dans nos mémoires collectives. Au même titre que le vase de Soissons, au même titre que la bataille de Poitiers, qui est d'ailleurs liée à notre événement, ou encore au même titre que la barbe fleurie de Charlemagne.
Qui ne portait pas de barbe d'ailleurs,
voilà,
tout le monde
exactement.
Le sait.
Quand nous prononçons le nom de Roncevaux, nous pensons immédiatement au corps de Roland. L'image est dans toutes les mémoires. L'écrivain anglais Tolkien reprit d'ailleurs la scène dans sa fameuse trilogie du Seigneur des Anneaux. Voici l'histoire, alors qu'il revenait de campagne de l'actuelle Espagne, Charlemagne, à la tête de son armée, ne peut rejoindre son neveu Roland. Roland, en effet, se fait attaquer par surprise dans un couloir montagneux appelé Roncevaux. Trahi par Ganelon, Roland meurt, son épée Durandal à la main. Durandal dont on disait qu'elle était capable de fendre des rochers.
Mais ça, c'est l'histoire ou c'est la légende, Christophe?
Eh bien oui,
Dickès.
Voilà pour la légende, voilà pour le mythe. La réalité, comme vous le savez, Hélène, en histoire, est moins romantique et bien plus complexe. Il faut rendre hommage à l'excellent travail de René Musso-Goulard qui, dans ce petit ouvrage de 145 pages, qui n'en est pas moins très riche, replace cette histoire de Roncevaux dans le temps long. L'auteur commence son récit avec la menace sarrasine qui se développe sur la péninsule ibérique au début du 8e siècle, en 711, par la prise de Tolède. Et le livre s'achève au 11e siècle avec le rôle, la place de la chanson de Roland, non seulement dans la création du mythe, mais aussi dans la jeunesse d'une nation, la France. Entre ces deux événements, entre la menace sarrasine et la chanson de Roland, il y a le drame de Roncevaux, le guet-apens, comme l'intitule René Musso-Goulard, car il s'agit d'un guet-apens, d'autant plus traître qu'il fut mené le jour de l'Assomption, fête religieuse majeure de la religion catholique. Le dogme de l'Assomption, vous le savez, est très tardif, puisqu'il date de 1950, mais comme souvent, la proclamation d'un dogme entérine une longue croyance, c'est le cas ici. L'Assomption désigne la montée au ciel corps et âme de la Mère de Dieu et le choix d'une attaque à l'occasion de cette fête religieuse n'est évidemment pas un hasard.
Surtout qu'on observait la trêve des armes, donc évidemment c'était facile de les attaquer ce jour-là. Alors Christophe, vous évoquez cette menace sarrasine au 8e siècle, mais comment se manifeste-t-elle?
Alors vous le savez, l'islam se développe au 7e siècle. Tout d'abord, en 613, Mahomet commence à prêcher publiquement. Il meurt en 632, l'année de l'Hégire. Le début de l'extension de l'islam date donc de la seconde moitié du 7e siècle, avec les succès omaïades au Maghreb et au Mashrek, le Mashrek étant l'Orient. Constantinople est même menacée en 673. L'Occident entend parler de cette menace sur la puissance impériale orientale. En 711, les troupes sarrasines passent le détroit de Gibraltar et profitent d'une crise intérieure du royaume wisigothique pour faire tomber Tolède le 19 juillet. Les troupes remontent vers le nord et atteignent les Pyrénées deux ans plus tard. Alors au début, les catholiques croyez à un retour des Vandales, que l'on appelait également les Vandalous, ce qui donnera son nom à l'Andalousie. Les Vandales étaient un vieux peuple d'origine germanique qui s'était installé en Afrique du Nord au 5e siècle.
Ah, ça avait fait pleurer Saint Augustin, justement. Et alors, pendant ce temps-là, en France, les Mérovingiens, qui étaient les rois des Frances, étaient-ils capables, eux, organisés pour résister aux Sarrasins?
Eh bien non, parce que le royaume franc est en crise et la réalité du pouvoir est entre les mains d'une famille, les Pipi, originaire d'Austrasie, la partie orientale du royaume franc. Les membres de cette famille, dont le chef est Pépin de Herstal, sont maire du palais, Maior Domus. Pépin de Herstal a un fils, un certain Charles Martel. Charles Martel qui crée une vacance du trône et s'empare du pouvoir légitimement, car la réalité du pouvoir, encore une fois, est entre ses mains. Alors on cite toujours Poitiers.
Oui, Poitiers 732, bien
Mais
sûr.
Mais avant Poitiers, il y a la victoire de 721 à Toulouse, où les Sarrasins sont obligés de battre en retraite. C'est, dit René Musso-Goulard, le premier indice du sursaut de la chrétienté. Ce n'est pas Charles Martel qui remporte cette victoire, mais le duc Yon, que l'on appelle également Eudes dans les textes, à tort d'ailleurs. Yon, Eudes, était duc des Gascons. Une résistance s'organise, rassemblant les Visigoths et les Gascons face à la puissance du chef de guerre Abderrahman. Charles Martel connaît peu ce front du sud-ouest, et s'il se dirige au sud de la Loire, c'est pour affronter le duc des Gascons, qui, selon une rumeur, aurait trahi un traité le liant à sa personne.
Un traître, encore un traître.
Là encore, les Sarrasins veulent profiter de cette querelle entre les peuples pour progresser vers le nord. Finalement, déstabilisé par l'ampleur de l'assaut, le duc des Gascons appelle Charles Martel. L'affrontement a lieu près de Poitiers, à Moussé. Nous sommes le 25 octobre 732, 100 ans après la mort de Mahomet. Alors que voulaient les Sarrasins ? Eh bien, atteindre Tours, tout simplement.
Pourquoi Tours ?
Tours était une capitale religieuse, celle où se trouvait le tombeau de Saint-Martin, protecteur des Gaules chrétiennes. Ce sur quoi, d'ailleurs, insiste René Musso-Goulard, c'est précisément la force des symboles dans cette conquête, dans cette progression musulmane. Les musulmans veulent conquérir la voie sacrée qui passe par Saint-Seurin de Bordeaux, Saint-Julien de Brioude, Saint-Hilaire de Poitiers, Saint-Martin de Tours.
Les grands saints de la Gaule.
Et enfin, Saint-Denis. Il faut toucher l'artère politique et spirituelle du royaume des Francs, c'est ce que veulent faire les musulmans. Vous comprenez en conséquence la gloire que tire Charles Martel de cette victoire, car pour les contemporains, ces lieux étaient plus que des symboles. Et Rome, où réside le pape, n'est pas indifférente à cette victoire. C'est cette victoire qui permet à Charles Martel d'achever de convaincre ceux qui ne croyaient pas à la légitimité de son pouvoir. Le pape Étienne II fait de Pépin, fils de Charles Martel qui meurt en 741, le roi des Francs. Pépin est sacré, c'est le premier sacre d'un roi des Francs. Pépin, pendant son règne, doit lutter encore et toujours contre les Gascons et les Goths, car l'opposition entre les Francs et ses peuples n'est pas terminée. Et c'est précisément ces luttes internes entre catholiques, tout comme le problème de la succession au sein du royaume franc face à la menace persistante des musulmans, qui incite la papauté à confirmer les Pipinides dans leur rôle de défenseur de la chrétienté. Les deux fils de Pépin, Carloman et Charles, bénéficient donc aussi de l'onction royale le 27 juillet. Pépin meurt en 768 et son fils Charles lui succède. Il inaugure la dynastie des Carolingiens. Je cite René Musso-Goulard, page 52 de son ouvrage. « Le premier temps de la trilogie s'achève et restera gravé dans les mémoires. La longue période mérovingienne des partages territoriaux, des guerres internes, portait en elle le levain d'une unité, celui de l'Église. La victoire défensive de Poitiers est le premier pas dans la prise de conscience de l'unité du royaume carolingien qui, déjà, dépasse les limites étroites du royaume mérovingien. »
Alors on arrive à Charlemagne, qui a vite fait d'éliminer son frère. Et pourquoi ? Quelle est l'action de Charlemagne dans cette unité du royaume, justement ?
Charles doit préserver une unité, l'unité de ses peuples. Il doit soumettre les peuples du sud-ouest pour mieux défendre la chrétienté. Le duc des Gascons se soumet, effectivement, mais le sort des chrétiens au nord de la péninsule ibérique amène, malgré tout, Charles à intervenir. Il intervient dans un premier temps à Pamplune, qui est aux mains des Visigoths, dans la dépendance de l'émir. Cette intervention est légitime, car Pamplune est une terre chrétienne sous la protection royale des Francs. Cette guerre d'Espagne entre donc tout simplement dans la tradition de la lutte carolingienne contre les Visigoths. Charlemagne a fait la démonstration de sa puissance dans la région et la progression musulmane semble stoppée. La pacification de la région permet d'entrevoir la création du futur royaume de Castille. La campagne est donc victorieuse pour René Musso-Goulard. Jean Favier, lui, dans sa biographie de Charlemagne parue chez Fayard, parle d'une petite défaite, puisque la victoire n'est pas vraiment militaire. En effet, Charlemagne fait démanteler les remparts de Pamplune pour éviter toute résistance future. Mais il ne soumet pas Saragosse, qui reste aux mains de musulmans, et il rebrouche chemin devant des musulmans qui s'emparent à nouveau de Barcelone et de la ville de Huesca. Charlemagne rentre donc, et c'est à ce moment qu'intervient le drame de Roncevaux.
Alors, puisque vous avez évoqué le livre de Jean Favier, Christophe, je voudrais rappeler à nos auditeurs que vous avez consacré une émission entière avec Jean Favier à Charlemagne, et que cette émission est disponible dans nos archives de Canal Académie. Alors, on arrive à Roncevaux. Ben, Roncevaux, c'est évidemment un drame, mais qui attaque ce cher Roland ?
Eh bien, ce ne sont pas les musulmans, mais les alliés de ceux-ci, les descendants des Visigoths qui tenaient Pamplune. On les appelait les Banu Cassis. Plus simplement les Basques. Que veulent-ils, ces Banu Cassis ? Eh bien, ils veulent récupérer leurs prisonniers de guerre. Ces prisonniers de guerre sont à l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne. Il est tout à fait contraire aux usages d'attaquer de la sorte une armée pour récupérer des prisonniers. On rachète les prisonniers, on ne les enlève pas. L'épisode, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas relaté de manière précise. L'épisode est en effet douloureux et c'est pour cette raison que les chroniques sont quasiment silencieuses sur le sujet. Ce n'est d'ailleurs que bien plus tard, au XIe siècle, que la chanson de Roland embellira l'affrontement. Mais il n'y a quasiment pas d'affrontement, Hélène. La surprise est totale. Les jeunes guerriers sont surpris. Parmi eux, on compte Roland, bien sûr, mais aussi Agiar et Anselme. Leur réputation à tous trois n'est plus à faire. En queue de cortège, ils ont la lourde charge de garder non seulement les prisonniers, mais aussi les chariots de la logistique royale, notamment les richesses du roi. Par ce qui est considéré comme un sacrifice, Roland est déjà entré dans la légende.
Donc, si je vous ai bien compris, les sources historiques sont à même assez légères.
Oui, elles sont très légères.
Mais la légende, elle, est très fournie. Alors, cette légende, comment se crée-t-elle ?
Eh bien, par le développement d'un culte, un culte autour des personnages. Inscriptions dans les églises, diffusion de récits faisant des guerriers francs des héros, des objets même sont aussi laissés à la vénération des fidèles, tel l'olifant, le fameux corps de Roland, malheureusement aujourd'hui perdu. Des cantilènes, des chants épiques, dont l'apogée sera donc la chanson de Roland, écrite en langue normande par Turold, moine de Fécamp. Nous avons une image de ce Turold sur la tapisserie de Bayeux, tenant deux chevaux par la bride. Son texte est divisé en deux parties, deux gestes. La première geste est consacrée au héros principal, Roland. La deuxième évoque, elle, la vengeance de Charlemagne. C'est un texte très récent, en tous les cas que l'on a découvert très récemment. En 1832, le texte a été publié finalement en 1837, d'après un manuscrit médiéval appelé le manuscrit de la Bodleienne d'Oxford.
C'est un événement formidable, et cela montre du XIe siècle et de le publier.
Redécouvert au XIXe siècle, cela montre, pourquoi pas, que l'on peut redécouvrir encore, même aujourd'hui, certains textes
et
de l'histoire médiévale.
Peut-être même le corps, peut-être on arrivera peut-être à le retrouver, sait-on jamais.
Alors, le nom de Douce France est cité 80 fois dans la chanson de Roland, tandis que les Francs sont devenus, dans ce texte, les Françaises, donc plus tard les Français. Ils sont cités, eux, plus de 150 fois. Si vous le lisez, Hélène, si vous la lisez, n'oubliez pas d'accompagner votre lecture de chants carolingiens, d'acclamations carolingiennes, car effectivement la chanson de Roland était bien chantée, accompagnée de sitar et d'autres instruments. Il s'agit d'une complainte plus que d'une histoire. Les moments les plus pathétiques sont accompagnés d'une clameur sombre, aoi, aoi, exprimant l'angoisse et l'appel de détresse.
C'est vrai qu'on l'a beaucoup étudié à l'école, la chanson de Roland, mais il n'y avait pas les aoi, aoi qui manquaient certainement. Christophe Dicques, que dit l'auteur René Musso-Goulard des temps carolingiens ?
Alors, les temps carolingiens, dit René Musso-Goulard, apparaissent comme une corne d'abondance au XIe siècle. Au XIe siècle, on puise dans ces temps carolingiens, on puise des exemples et des références. Le XIe siècle est marqué, par exemple, par les assauts vikings. Eh bien, les temps carolingiens étaient eux aussi marqués par des assauts, mais il s'agissait des assauts sarrasins. C'est ainsi que les Banu Cassis, nos fameux Basques qui attaquèrent l'arrière-garde, deviennent dans la chanson de Roland des sarrasins. Vous le voyez, la chanson de Roland se sert plus de l'histoire qu'elle ne la sert. Qu'importe, Charlemagne est la référence. Il a fait de la France le phare de la chrétienté et lui a donc donné une mission évangélique. Je vous rappelle qu'avec la chanson de Roland, nous approchons de la fin du XIe siècle qui va voir l'émergence de la première croisade, réaction au développement de l'islam et à sa menace sur les pèlerinages en Terre Sainte. Le roi, la force séculière, le glaive est, je cite René Musso-Goulard, responsable de l'église de son royaume et ce royaume est dépositaire d'une mission qu'il ne renie point et entend préserver. Mais au-delà du personnage de Charlemagne, Roland, lui aussi, va avoir toute son importance. Il devient le symbole de cette campagne d'Espagne visant à repousser les musulmans en apportant une aide aux Goths. Alors que nous avons vu que l'entente entre Francs et Goths était loin d'être évidente, là encore, la chanson de Roland se sert de l'histoire pour affirmer une idée simple. Il s'agit de réaliser l'unité du royaume. C'est l'unité du royaume franc, du peuple fédérateur autour d'une cause commune qui transpire dans la chanson de Roland écrite par Turold. Les temps carolingiens constituent un exemple alors que les Capétiens sont sur le trône depuis moins d'un siècle. Turold scelle donc la réalité de son temps, de sa propre époque dans l'histoire carolingienne, qu'il interprète sans aucune gêne. Une réalité, Hélène, bien évidemment, je ne vous le cacherai pas, qui est une réalité religieuse, profondément religieuse.
Comment ne serait-elle pas religieuse à cette époque ?
Je cite, en l'appui de cette affirmation, René Musso-Goulard. « Au cœur de tout cela, dit-elle, une seule vérité, le service dû par les hommes de foi. Reconnaître le mal, l'hérésie, les écarter, livrer combat s'il le faut, dispenser l'amour, faire fi des richesses, mourir au monde et vivre. Une société en apparence bardée de fer, de tours, remparts et citadelles de pierre, créatrice de si puissantes œuvres qu'elles sont toujours des modèles, regarde en fait bien au-delà. Que son identité construite longuement soit mise en péril, et c'est la douleur de sa nécessaire défense. Grandeur, humilité ont entouré la naissance du royaume de France que la chanson vient d'évoquer.
Christophe Dickès, c'était l'éphéméride consacré aujourd'hui au samedi 15 août 778, date de Roncevaux, et vous faisiez référence à l'ouvrage de René Musso-Goulard, Roncevaux, paru aux éditions Perrin. Je rappelle également que toutes nos archives sur Canal Académie permettent d'écouter vos émissions Un jour dans l'histoire.
Merci à vous.
À bientôt.